Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Florent Laden.
Quand j'ai commencé à cuisiner à 18 ans, le terroir n'était pas aussi dynamique, il n'y avait pas autant de petits agriculteurs qui commençaient, il n'y avait pas cette nouvelle génération qui se réemparait d'un terroir et de façon de faire un peu moins technologique, mais un peu plus ancestrale, pardon. Un peu plus ancrée et pleine de sens. Moi, j'avais pas le bagage technique pour ne faire que ça. Il a fallu que je me tourne vers la pâtisserie, vers la cuisine japonaise, vers tous ces trucs-là pour me rendre compte qu'en fait, la cuisine qui me plaisait, que je savais faire, c'était la cuisine flamande. Donc, ça a été un process qui a été très long. Il s'est écoulé une dizaine d'années, je pense, avant de pouvoir le faire. Et puis, le 100% local, c'est arrivé avec le sel. Il nous manquait le sel, en fait. Et le sel est arrivé il y a pas très longtemps, hein, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Il faut être honnête avec les gens et si on dit qu'on travaille des produits locaux, si on communique sur le fait de travailler des produits locaux, on claque pas des agrumes partout et on claque pas des épices et du chocolat parce que tu fais ce que tu veux chez toi. Mais n'utilise pas ce terme, ne galvaude pas ce terme parce qu'il est tendance. C'est bien plus qu'une tendance, c'est une vision, c'est un truc qui est très différent. C'est écologiquement c'est énorme. Économiquement, c'est énorme. Humainement, socialement, c'est énorme.
Vous le savez sans doute, Florent Laden est le chef de file de la nouvelle cuisine flamande française à la tête de 3 restaurants à Lille et dans les environs. L'Auberge du Vermont, Bloompot et Birbik. Et je vais faire court car l'interview est longue et j'ai juste envie de vous dire que ce genre d'entretien est la raison même de l'existence de ce podcast. Avec Florent, nous avons donc beaucoup parlé de cohérence et d'alignement, de contraintes et de rapport au feu. N'oubliez pas le partenariat avec Elle à Table continue sur le site elle.fr où chaque nouvel épisode est disponible en avant-première, 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Florent.
Bonjour.
Ça fait un an que les restaurants sont quasiment à l'arrêt et là vous reprenez aujourd'hui même la vente à emporter et la livraison chez Birbik, Bloomeke. Tu te sens comment ?
Je me sens super excité, j'ai pas peur, je suis pas stressé parce qu'on a fait des choses beaucoup plus stressantes et effrayantes que ça. Je suis super excité parce qu'en fait c'est pas mal de mois de réflexion, de cogitation qui se concrétise aujourd'hui, ça c'est chouette.
Et le défi de la livraison, de la vente à emporter, ça a été difficile à relever ?
On a retourné le problème dans tous les sens. Nous, dans notre travail, on essaie de donner du sens, justement. On essaie d'avoir des valeurs, d'avoir une éthique. Ça va bien plus au-delà du fait de travailler que des produits locaux. Ça, on comprend facilement. Que des produits locaux, écologiquement, économiquement, socialement, c'est important pour une campagne. Mais humainement, on veut aussi être bon. Et même si on est dans la restauration. et par rapport à la livraison, ouais, on a rencontré hein, toutes les grandes plateformes, on les a tous rencontrés. On a rencontré les petits, qui le font aussi de façon plus éthique. Mais dans un souci de cohérence, nous, on voulait déjà, dans un premier temps, se couper de la perfusion financière qu'on reçoit de l'État français. Et c'est une très bonne chose. On a beaucoup de chance d'être en France aujourd'hui. Si on était en Belgique, ce serait pas du tout la même chose. Moi, je parle de la Belgique parce que la Belgique, c'est à 100 mètres de ma maison. Même pas, c'est à 2 mètres de ma maison. Et j'ai plein de restaurateurs belges. Je peux comparer vraiment les deux. On a beaucoup de chance d'être en France. Mais voilà, je voulais remettre mon équipe au boulot. Toute mon équipe au boulot. Les serveurs qui effectueront les livraisons par eux-mêmes. Parce que... J'ai rien contre les livreurs des grandes plateformes, mais j'ai pas mal de choses contre les grandes plateformes. Et c'est sûr que le choix qu'on a fait là fait que, en termes de chiffre d'affaires, on n'égalera jamais ce qu'on aurait pu faire avec les gros. Mais là, on reste chez nous, on contrôle tout de A à Z. Et tout le travail qu'on fait en amont sur le sourcing des produits, sur la biodynamie, sur le bio, sur tout ça, aurait eu beaucoup moins d'effet, d'impact et de sens si finalement c'était livré par un mec avec une caisse bleue ou avec une caisse noire.
Voilà, c'était tes livreurs qui vont pouvoir expliquer potentiellement aux clients. Enfin, en tout cas, tu gardes le contrôle aussi de ta clientèle.
C'est ça. De A à Z, on garde le contrôle de tout. On est dans nos valeurs, on est aligné et au final, cette rien, ce fait d'être aligné, ce bonheur que ça procure fait que c'est sûr qu'à court terme, je me répète, mais je suis chef d'entreprise, hein, à court terme, financièrement parlant, c'est une moins bonne opération, mais à long terme, non, parce que déjà, et puis rien que moi par rapport à moi-même, quoi. Vraiment, pendant un mois, j'ai tout retourné. C'était pas une question de 20% chez l'un, 22% chez l'autre, qui sont devenus 14% maintenant parce que les mecs veulent absolument qu'on bosse chez eux maintenant. Mais c'est pas qu'une question de pognon, c'est pas que ça. C'est juste que vraiment, ça me retournait un peu le ventre de voir des sachets Beerbug dans ces malles bleues ou noires. Je me répète encore une fois, désolé, mais ouais, j'ai besoin d'être aligné. Il y a ce qu'on fait. Notre travail, et il y a pourquoi on le fait aussi. Et le pourquoi, alors il ne faut pas que ça devienne une obsession, mais quand il devient aussi important que ce que tu fais, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et je n'avais pas envie de sortir le fameux couplet « la fin justifie les moyens », etc. Je voulais essayer autrement. C'était possible uniquement si les Lillois étaient au rendez-vous. Et une fois de plus, les Lillois sont au rendez-vous. Alors, je sais pas s'ils sont tous au rendez-vous parce qu'ils partagent ces valeurs-là. Peut-être que le lendemain, ils vont se faire livrer et par une plateforme. Et c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins, une fois dans la semaine, ils peuvent le faire chez nous. Et ils le font, et c'est génial, quoi.
Et vous avez déjà essayé ça au Bloompot ?
Au Bloompot, on le fait pas en livraison.
Non, vous le
faites. Au Bloompot, on le fait juste à emporter, en takeaway.
Oui,
et ça
là,
fonctionne.
C'est le baptême du feu aujourd'hui.
C'est le baptême du feu, ouais.
T'as voulu, enfin, quand je disais, est-ce que le défi de la vente a emporté aussi de la livraison, donc il y a cet aspect, livraison effectivement, mais il y a aussi l'aspect réflexion, comment tu transposes ta cuisine en vente à emporter. Ici, t'as voulu imaginer une expérience façon plateau télé à déguster depuis son canapé avec des plats très comfort food qui remettent au goût du jour des plats du terroir comme la flamiche plutôt que la pizza, le Welsh plutôt que le mac and cheese ou le shawarma de betterave. Tu l'aimes toujours autant, ton terroir ?
Je suis dingue de ce terroir. Je fais partie d'une chaîne qui est dingue. S'il faut expliquer en deux mots ce que c'est que la Flandre, c'est énormément d'histoire. C'est un patrimoine, c'est une culture, c'est un dialecte. Et s'il fallait donner un ordre de pas de comparaison, mais de un point pour que tous les Français se rendent compte de ce qu'est la Flandre, c'est un peu comme identitairement parlant, c'est un peu comme la Bretagne, comme la Corse, comme
le Pays Basque,
comme le Jura, comme la Savoie. c'est des terroirs, c'est des terroirs qui n'ont pas forcément toujours été français. C'est des endroits où il est aussi important d'être de ce terroir, de ce territoire que d'être français. Et sans que ce soit, je suis pas indépendantiste flamand du tout. Hein, je suis conscient de la chance qu'on a d'être en France. Je suis très content.
Surtout
mais
en ce moment, comme tu disais.
Ouais, surtout en ce moment, hein, c'est vrai. Mais voilà, on est vraiment attaché à nos racines. Et moi, je suis vraiment ancré sur ce territoire, quoi.
T'as toujours eu envie de rester ici, de le défendre. C'est quelque chose qui était là depuis ton enfance.
J'ai toujours été fier de venir de la Flandre. Quand il y a eu ce truc, ce raz-de-marée ch'ti qui est arrivé sur le Nord, où d'un coup, tout le monde a connu un peu le Nord, le ch'ti, etc. J'ai rien contre les ch'tis, mais j'ai toujours dit, moi, je suis pas ch'ti, je suis flamand. Je me suis rendu compte de cet attachement quand je suis parti à Paris faire le tournage de Top Chef, finalement. Ce qui est sûr, est-ce que j'ai toujours voulu rester en Flandre, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais cherché à aller faire d'études à Lille ou à Paris. J'ai jamais cherché à aller bosser ailleurs. Est-ce que je resterai là toute ma vie, je sais pas non plus. En tout cas, ici c'est ma maison et j'ai pas trouvé d'autres maisons ailleurs pour l'instant.
Surtout, j'imagine que quand t'étais petit, comme je suis du Jura, faire des comparaisons, sans doute. Où je sais que chez moi, c'était pas très sexy à l'époque. Et tu vois, il y a aussi un retour aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est facile, je pense, pour nous de dire qu'on est fiers et d'appartenir à une région qui a une image un peu forte et c'est devenu cool, tu vois, de retourner à la campagne. Mais voilà, enfin, dans cette histoire de remettre au goût du jour la cuisine ancestrale d'un terroir. Voilà, est-ce que ça a été un long cheminement, enfin tu dis que tu as toujours été attaché, mais est-ce que tu vois cette cuisine et t'avais déjà enfant, enfin est-ce qu'il y a eu une phase de rejet et que tu te l'es réapproprié, tu vois, dans les restos étoilés il y a 20 ans c'était pas du tout
il y a 10 ans
ou même il y a 10 ans
même encore aujourd'hui parfois
même parfois aujourd'hui tu vois, tout le monde faisait du foie gras et ouais, peu importe où t'étais, donc oui.
Mais un peu comme j'ai dû aller à Paris pour me rendre compte à quel point c'était cool chez moi, j'ai dû tenter de faire tout sauf du flamand pour me rendre compte qu'en fait tout ce que j'étais, c'était flamand. Tout ce que j'ai mangé quand j'étais petit et toute mon histoire finalement était flamande. J'ai fait moi aussi du foie gras, j'ai fait moi aussi des carpaccio de Saint-Jacques en mettant des algues nouvelles, là, des trucs, voilà. Je l'ai pas fait longtemps parce que je me suis vite rendu compte que déjà c'était pas fou. Enfin, moi je trouvais pas ça dingue, je savais pas le faire. Et en plus, il y avait peu de sens à venir manger à Boskep, à avoir une vue sur la campagne, être au cœur d'un paysage flamand et à manger de la cuisine d'inspiration japonaise ou du foie gras du sud-ouest, quoi. Tu vas pas sur le Vieux-Port à Marseille pour manger une choucroute, bah là c'est pareil, quoi. Et je me suis rendu compte qu'on avait tout ce qu'il fallait chez nous. Et ouais, cette image de campagne qui devient cool aujourd'hui, qui l'était pas hier, ça me fait penser à une anecdote qui m'avait... C'est la première fois que je vais à Paris pour une réception d'un guide, je sais même plus lequel, c'est anecdotique ça, mais j'ai la chance de croiser Joël Robuchon, donc pour moi c'est un truc de dingue, je le voyais à la télé quand j'étais petit avec ma grand-mère, quoi. Et il vient me voir, il me félicite parce qu'on avait reçu un prix, je sais plus lequel non plus, et il me dit, donc vous êtes d'où? J'ai dit, bah, je suis du nord de la France. Il dit, ah, ça doit pas être évident. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, bah, ça reste une région sinistrée. J'ai dit, bah écoutez, je vous invite à venir dans le nord de la France et vous verrez à quel point c'est vraiment pas ce que vous pensez. Mais c'est bien. Alors je lui ai pas dit, mais là, c'est entre nous. Mais je trouve ça bien, finalement, quelque part, qu'on ait cette image. Parce qu'on peut que surprendre en bien. Les gens, quand on entend parler du nord de la France, ils ont l'impression qu'il fait plus froid qu'à Paris. On est à 200 km, hein, c'est exactement la même chose.
C'est le même temps. Ouais, je confirme, je suis arrivé hier.
Voilà, c'est exactement la même chose. Les gens ne connaissent pas, ne savent pas à quel point l'île est belle, à quel point la campagne flamande est dingue à quel point les côtes, la côte d'Opale, quand on est sur le Frankouk, Zuidcoat, c'est des dunes, c'est un parc naturel, ça fait penser à l'Irlande, à l'Islande, mais en même temps, t'as ces grandes plages du Nord. Enfin, on habite une région merveilleuse. En France, il y en a beaucoup, hein, je dis pas que c'est la plus belle, mais on peut surprendre que les gens ont bien finalement, et ça me va.
Petit à petit, ce cheminement t'a mené à travailler, à être vraiment dans un locavorisme extrême. Et donc, t'as poussé à éliminer tous les produits qui venaient de plus de 100 km maximum pour le sel, je crois.
C'est ça.
Comme le café, les épices, t'as tout éliminé, ce qui est quand même hyper radical. Et je pense qu'il y a assez peu de personnes en France qui font ça. Et qu'est-ce qui t'a décidé à dire bon, ça y est, je passe le cap, j'arrête.
C'est la cohérence. En fait, quand tu commences à mettre ton doigt dans cet engrenage, tu as du mal à t'arrêter. On sera jamais 100% cohérent. Parce que j'achète des fours allemands, par exemple. parce que mes nouvelles chaussures que je porte, je suis trop content, je les ai touchées à 50 balles au lieu de 200. sont pas faites en Flandre, etc. Mais on cuisine plus de la moitié de nos produits. Bien plus de la moitié de nos produits. J'ai pas fait le calcul, mais on cuisine énormément au feu de bois. Le bois vient du mont que je voyais depuis ma chambre quand j'étais petit. C'est Jean-Luc qui est un pote de mon père qui travaille, qui a 30 ans, a commencé à racheter des terres agricoles pour planter des arbres. Tout le monde crie au scandale, enfin tous les agriculteurs locaux crient au scandale, et au final aujourd'hui c'est grâce à lui qu'on a une biodiversité aussi belle près de chez nous, là, sur les monts de Flandre. Donc on lui achète son bois, il en fait un commerce aujourd'hui, et c'est très bien. On essaie vraiment d'être cohérent au maximum. Notre nuit de travail, c'est du lin local, fait par une styliste ici. On essaie de pousser ça, de pousser au maximum, d'aller toujours plus loin, pas pour être contre un système. Forcément, quand on fait ces choix-là, on s'oppose à plein de choses.
Enfin, on te montre du doigt dans le sens où, effectivement, on fait sortir le côté contre, alors qu'en fait, t'es plutôt
alors
pour.
Alors que c'est pour être pour, c'est pour construire quelque chose, pour être acteur économique de gens autour de chez nous. Moi, on arrive à me dire « Ouais, mais Flo, c'est bien, tu t'achètes pas de chocolat, mais les gens qui travaillent dans les plantations de cacao, tu les fais pas vivre. » Et ouais, parce qu'en fait ces gens-là ils vivent pas, ils survivent, ils gagnent quelques centimes par jour. Ils sont il y avait eu un super documentaire sur Envoyé spécial sur le chocolat en Côte d'Ivoire que j'invite tout le monde à regarder. Encore une fois, je suis pas contre le chocolat, je suis contre l'exploitation humaine, je suis contre l'exploitation de la nature, parce que les mecs utilisent sans protection des produits chimiques qui sont interdits depuis les années 80 en France. Enfin, c'est
t'as choisi de soutenir aussi un écosystème qui est proche de chez toi. Enfin,
ouais, et je mets un visage, un nom, même pas une anecdote. Sans anecdote, sans souvenir de bringue sur chacun des produits qu'on a, même le bois, quoi, tu vois. Donc ça fait sens. J'ai pas fait ces choix-là, encore une fois, pour être contre ceux qui le font. C'est juste un souci de cohérence. Tu sais, le produit qui a été le plus difficile à enlever.
Le café
chez moi. Non.
Non.
Le café, en fait, je l'ai fait après. Le produit qui était le plus difficile à enlever, ça a été le Coca. Le Coca-Cola. parce que j'ai fait ça il y a 15 ans. Et que il y a 15 ans, les gens n'étaient pas aussi. Peut-être pas autant prêts qu'aujourd'hui. Pas aussi ouverts qu'aujourd'hui aux dérives de la consommation. Et de l'impact que ça a sur la planète.
J'ai eu cette discussion hier sur du Coca avec un de tes confrères lillois. Okay. C'est drôle parce que tu vois qu'on parlait encore de ça aujourd'hui.
Ouais.
Effectivement, il y a 15 ans, je pense que ça devait être
il y a 15 ans, ça
révolutionnaire.
A été, les clients me disaient « Mais pourquoi ?» J'ai dit « Mais parce que c'est du Coca. » Enfin, déjà, rien que ça, je devrais même pas devoir expliquer. Mais j'expliquais parce qu'il faut, beaucoup de pédagogie. Et je suis pas plus malin qu'un autre. Hein. C'est juste que les gens qui viennent chez moi se soumettent à mes choix qui sont, oui, effectivement radicaux, mais le radicalisme, ça peut être positif. Et je dis pas que j'ai raison, mais j'essaie d'expliquer. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une clientèle qui est ouvert d'esprit. Et puis ceux qui le sont moins, c'est pas grave. Ceux qui sont moins ouverts et qui sont habitués à boire du coca et à avoir 300 grammes de viande à l'assiette, ce qui importe, c'est qu'ils soient contents de ce qu'ils ont mangé. Même s'ils n'ont pas eu 300 grammes de viande, il faut qu'ils passent un bon moment tout de même. Parce qu'un client, c'est un client. Que je reprends ma casquette de chef d'entreprise, mais un euro, c'est un euro. Qu'il soit dépensé chez toi par quelqu'un qui partage ses convictions ou pas, ça reste un client. Et on ne fait pas ce métier pour nous, on fait ce métier pour les autres. On le sent tout de suite, hein, quand tu vas manger dans un restaurant où le mec cuisine pour lui, et quand tu vas manger dans un restaurant où le mec cuisine pour ses clients. Enfin, c'est... voilà.
Et est-ce que c'est difficile de garder le cap, tu vois, justement, quand on vient te titiller là-dessus, t'expliquer la livraison, c'est pareil, tu vois, c'est des choix pas forcément économiques ou à long terme. Ouais. Tu vois, t'es quand même obligé d'avoir une force de caractère qui fait que...
Ah, le flamand est têtu. Est-ce que c'est difficile? Non. Là, je te cache pas que par rapport ma dernière grosse réflexion avec, enfin, je dis ma, mais c'est mon équipe, hein, c'est avec mes gars, parce que tout seul, tu fais rien du tout. Aujourd'hui, il y a 3 restaurants, on est 45. J'ai des piliers, des mecs avec qui je bosse depuis 15 ans. J'ai 36 ans. Enfin, tu vois le truc. C'est, voilà, c'est, on est fort. On est vraiment fort ensemble. On est, on a gardé le contact, et même quand on pouvait pas se voir, etc. Enfin, c'est, je parlais 3 heures au téléphone avec mes associés, quoi, par jour. Plus, plus qu'avec quiconque. Mais, on entend le carillon de...
Ouais.
du beffroi, c'est beau, on est à Lille. Non, c'est pas difficile. La dernière grosse réflexion, ça a été par rapport à ces livraisons, aux plateformes et trucs. Et là, ouais, tu te poses des questions parce qu'au Birbeck, on est ouvert il y a 2 ans, parce qu'au Birbeck, on perd de l'argent. Parce que tu continues à payer ton loyer, à payer tout ça, et que tu pourrais te faire beaucoup plus d'argent en travaillant avec ces plateformes. Mais au-delà de ce qu'on fait, il y a pourquoi on le fait. Ouais. Et même si on est en période de crise sanitaire et donc économique, je pense qu'il faut rester droit dans ses bottes. Et on a fait ce choix-là. Alors je te dis ça aujourd'hui. Peut-être que là, c'est bien, on est sold out au Beer Bug cette semaine, c'est la première semaine, et peut-être que dans les 2 prochaines semaines, on va faire moitié moins de commandes, et que du coup, je vais devoir remettre des mecs au chômage partiel. C'est souvent un discours que j'entends chez les chefs, enfin, moi je l'entends pas, mais c'est des retours qu'on me fait. C'est ouais, pour l'ADN, c'est facile. Mais non, c'est pas plus facile parce que je m'appelle Florent Laden que si j'étais un autre, au contraire, j'ai pas... Quand les mecs me voient arriver, ils se disent aussi, hein, sur les devis, sur les trucs, pas mes maraîchers, hein, mais quand on fait des travaux, on peut y aller. Mais non, on peut pas y aller. On est dans la merde comme tout le monde. On a pu un rond au Birbeck, on est ouvert il y a 2 ans. Sur les 2 ans, on a été ouvert 1 an. On a relancé des travaux. Donc
ça
c'est bien, on a eu le temps de les faire.
Énormément de travaux aussi. Vous
on a eu le temps de les faire, les travaux.
Ouais.
Oui. Mais on les a lancés au moment où il fallait pas, financièrement parlant. Parce que tout ce qu'on avait... tout ce qu'on avait a servi à ça. Moi, j'ai remis de la thune perso pour faire les travaux. Au Bloompot, on a ouvert il y a 7 ans. J'ai jamais pris un euro de salaire là-bas. Et c'est bien que ça se soit passé comme ça, parce que toute notre trésorerie des 7 dernières années a servi à
éponger la crise.
À éponger ça. Mais ouais, c'est pas grave. Faut pas oublier quand même que... Alors, c'est un peu contradictoire, mais je suis loin de vivre dans le luxe, hein. Moi, je gagne 1480 euros par mois. J'ai le salaire le plus bas de tous les
l'équipe.
Employés. Je suis vraiment loin de vivre dans le luxe, hein. Je loue un appart, un truc, voilà. Mais quelque part, c'est que de l'argent. On parle d'une pandémie où il y a quand même plus de 2 millions de personnes qui sont mortes. Donc, il faut aussi relativiser ça. Encore une fois, en France, aujourd'hui, on est aidé. Est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est pas le débat. On est aidé. On est bien aidé. C'est pas un cadeau. On est sous perfusion. Hein. Quand tu vas chez le médecin, quand tu vas à l'hôpital, il t'aide parce que t'es malade. Tu le payes quand même.
On le payera plus tard.
On le payera plus tard. C'est pas un cadeau. Mais on est tout de même aidé.
Ça nous permet de traverser à peu près à cette crise.
Ouais.
Et cette, enfin, pour revenir sur les, sur ce choix de travailler avec des produits 100% locaux, est-ce que, enfin, ça donne forcément des limites et est-ce que ça stimule ta créativité aussi?
Ça booste la créativité parce que t'as pas le choix. Si tu veux faire autre chose que de la carbonate flamande et des frites, t'es obligé. J'ai jamais eu trop de problèmes avec la créativité. Et en fait, ce qui a fait la force de la cuisine, qu'elle soit française ou asiatique, en tout cas internationale, c'est que tout est toujours né de contraintes. Moi, les meilleurs produits que j'ai mangés, je te parle de produits, pas forcément de cuisine, mais les meilleurs produits que j'ai mangés, c'était à Moscou. J'ai mangé une pomme comme jamais j'ai mangé, et elle était fermentée depuis 5 mois. Et pourquoi ils fermentent aussi bien là-bas ? Ça vient de la contrainte, parce qu'ils ont des hivers rudes, longs, et qu'il faut conserver les produits. Nous, le choix qu'on a fait, on peut dire que c'est une contrainte. Moi, je préfère utiliser le terme de cadre, parce que si tu dis à un chef qui débarque chez toi, si tu le présentes comme une contrainte, sachant que le mec, il vient de, je sais pas où, de grands restaurants, pour les mecs qui viennent de très grandes boîtes, des meilleurs chefs français, des groupes Ducasse, etc., quand ils viennent chez moi, ils passent dans la machine à laver, quoi, parce que...
Tu déconstruis ce qui a été...
Ouais, mais c'est aussi pour ça qu'ils viennent. Mais oui. Tu sais que les deux premiers mois, pour eux, c'est chaud. Quoi. C'est...
Ouais.
Déjà, humainement, c'est pas les mêmes rapports. Et au niveau du produit, il faut s'adapter. Quand tu travailles avec Bertrand ou avec Driss, qui sont mes maraîchers, t'as réfléchi, t'as demandé un test de 2 kilos de betteraves... Tu les as eues, elles étaient toutes belles, petites, etc. Quand t'en commandes 70, t'en auras des grosses aussi. Et les mecs font pas ça pour t'embêter. C'est juste que c'est comme ça dans la nature. Donc t'oublies ton histoire de calibrage, t'oublies tout ça. T'oublies aussi que c'est pas un grossiste qui vient te livrer. C'est un maraîcher qui prend son camion, qui vient te livrer. Donc s'il t'a dit 9h, il peut peut-être aussi être 9h45. Et c'est encore une fois, il s'amuse pas. Il a pu arriver plein de trucs. Si les betteraves qu'il a dû tirer le matin à 6h étaient sur une parcelle où la terre est un peu plus argileuse, un peu plus collante, ça prend plus de temps. S'il a eu un problème sur la route, voilà, même si c'est qu'à 10 km. Donc c'est un cadre plus qu'une contrainte à mes yeux, mais c'est surtout beaucoup moins de confort. Mais
une fois le que tu confort, le sais, tu...
Ouais, le confort, c'est bien sur le coup. À moyen terme, long terme, c'est pas forcément cool parce que tu te remets pas en question.
C'était une évidence de reprendre cette auberge, grange auberge qui fut un temps crêperie et même discothèque,
ouais,
que ton grand-père a acheté en 81 ou 82.
C'était pas une évidence. C'était un choix de cœur. Moi, au moment où j'ai été appelé par Top Chef, financièrement parlant, c'était chaud.
T'étais déjà à la tête de l'auberge,
cuisine.
Ouais, de la cuisine. Ouais.
De la cuisine. Financièrement parlant, on était dans une période vraiment tendue. On s'était tapé une crise économique fin des années 2000. Et aussi, on était encore sur les bases de travail qui avaient été établies 20 ans auparavant. Donc, on ne s'était pas renouvelé. Et on avait eu... Quand mes parents avaient commencé l'auberge, le côté estaminé, etc., il n'y en avait presque pas. Que ce soit France ou Belgique, on a fait partie des 10 premiers, je pense. Maintenant, aujourd'hui, il doit en avoir une centaine avec un rayon kilométrique de, je sais pas, 25 km. Donc, il y a eu plus de concurrence. Nous, on ne s'était pas forcément... poser de questions et voilà, mais quand mon père m'a dit qu'il voulait vendre l'auberge, qu'il pensait à vendre l'auberge, je lui ai demandé carte blanche pendant un an si possible, parce que j'avais une vision de ce qu'on pouvait faire là, et il m'a dit qu'au niveau trésor on pouvait tenir 5 mois, mais il m'a dit vas-y, essaye 5 mois et on en reparle dans 5 mois.
Ça a marché.
Ouais. Ça marche encore,
c'est
bien.
Cool.
De toute façon, je pense que quand tu mens pas aux gens...
Non, mais 5 mois, c'est court.
Quand tu racontes une histoire qui elle, pour le coup, est vraiment évidente. Ouais. Quand tu viens manger à l'auberge, t'as quelques piliers de briques et des baies vitrées partout, et t'es sur un mont qui est à 80 mètres de hauteur, mais tout le reste est plat. Donc, ouais. Donc t'as une vue de dingue, tu vois, ouais. à 60 bornes. T'as la Flandre sous tes yeux. L'histoire était là, en fait. Hein. J'ai pas dû chercher à raconter une histoire. Je sais pas, ouais, la cuisine de ma grand-mère, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère quand j'étais petit, etc. Donc je fais que des plats de ma grand-mère revisités. Non, c'est pas ça. Je fais de la cuisine flamande, et la vraie cuisine flamande, c'est la cuisine de produits flamands.
Tu te voyais chef déjà, enfant ?
Non.
Tu voulais faire quoi ?
Je voulais faire tout sauf ce que mes parents faisaient, parce que c'était un métier vachement ingrat. C'est un métier vachement ingrat. Parce que quand t'es fils de restaurateur,
tu veux pas du tout être restaurateur.
Tu vois les mauvais côtés ouais. du métier parce que
tu les voyais pas.
Parce que même pas que tu te les vois, c'est que tu te les prends dans la gueule tout quotidiennement. Mais au final, j'ai fait ce choix parce que j'ai été confronté à la vie quotidienne de l'auberge. Alors j'ai toujours été passionné par l'auberge, et je pense que tout vient de là. Tout vient de mon amour pour l'auberge.
C'est ça qui t'a donné envie d'être chef. Enfin, c'est...
Ouais, si mon père avait été charpentier à l'auberge, je serais peut-être devenu charpentier. Alors j'aurais certainement été piètre charpentier, mais, mais j'ai toujours été passionné par l'auberge. Et puis,
la réception des gens ou l'auberge ?
Non, l'auberge. Le lieu. L'énergie qu'on a là, l'histoire, le truc, tous les souvenirs que j'ai là. Et moi, mon année terminale littéraire, je l'ai passée en candidat libre. Suite à quelques différends avec l'éducation nationale, au bout d'un mois, j'ai démissionné de mon lycée. J'en profite pour faire un petit coucou à mon ancien directeur. Et en fait, j'ai passé donc cette année en candidat libre à bosser dans ma chambre, et puis mes journées de cours se résumaient à 2h30 par jour. Et le reste du temps, j'avais un deal avec mon père, c'est qu'il fallait que je l'aide. Que je l'aide au boulot, quoi. Et j'ai vu ce qu'était le travail quotidien à l'auberge. Je connaissais, je faisais la plonge quand j'étais petit, je faisais le service après, parce que au moins j'étais en cuisine, au plus les gars étaient productifs aussi, parce que je passais mon temps à faire le con avec l'équipe. Je les voyais comme si c'était mes grands cousins, et comme si c'était mes cousins, quoi. Ils étaient plus âgés que moi. D'ailleurs, la plupart étaient mes cousins, mais mais du coup, ouais, pour moi, c'était une cousinade. On faisait les cons, et voilà. Et finalement, j'ai vu ce qu'était le travail quotidien à l'auberge, est venu se greffer à l'amour que j'avais pour cet endroit, l'amour de ce travail, en fait. Du travail en équipe, de tout ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai toujours tout fait par équipe. Moi, j'ai fait de la musique, j'ai fait du rugby, maintenant de la cuisine.
Sport d'équipe.
Voilà, c'est ça, c'est un sport d'équipe.
T'as pas été tenté d'aller voir ailleurs, d'aller te former, te confronter aussi à d'autres chefs?
Non, me confronter à deux chefs, non, parce que je savais très bien que j'avais pas le niveau pour le faire.
Ah, ou moi, d'apprendre j'ai, en tout cas auprès d'eux. Ou...
J'ai été, je suis autodidacte. Hein. J'ai appris à lever un filet de poisson en regardant des tutos sur YouTube. J'ai appris dans les livres. J'ai pas fait d'école. Je fais partie d'aucune famille de cuisiniers. Ça me va bien. J'ai rien contre les familles de cuisiniers, mais l'esprit clique, j'ai jamais trop adhéré à ça. Je me suis dit que, quitte à bosser comme un dingue, comme un con peut-être, autant le faire pour aider mon père plutôt qu'un autre.
Et ton père t'a fait confiance dans ses désirs de modernisation de...
Et alors j'ai eu de la chance qu'il y avait beaucoup d'amour entre nous pour compenser déjà le conflit générationnel. Mmh. Moi j'arrivais à toute blinde. Mon père était à une période de sa vie où ça ne le branchait plus forcément de faire de la restauration. Donc il y avait quand même quelque part une opposition de dynamique là-dessus. Il y a le conflit générationnel, il y a la situation familiale qui fait que c'est quand même pas facile de travailler en famille, surtout pas dans ce métier-là. Ou quand tu as un service qui s'appelle aussi un coup de feu. C'est violent un coup de feu. Mais c'est vraiment ça, un service c'est très violent. Il y a un stress, il y a un truc. Moi, j'ai pas été suffisamment mûr, je pense, à l'époque, pour expliquer qu'en fait, les changements que je faisais, c'était pas parce que ce qu'on faisait, c'était mal. Parce qu'au final, il y a plein de trucs qu'on faisait avant que je refais maintenant. Mais ouais, l'amour, le temps ont fait que ça a été réalisable. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été rapide. Mais même si on n'était pas d'accord, quand on se retrouvait ailleurs que dans l'auberge, je restais son fils et il restait mon père. Mais il n'y a pas eu d'esclandre, ouais. On n'était pas d'accord. Allez, il y a eu quelques coups de gueule, mais rien de bien méchant.
Et puis il y a eu Top Chef. C'était quoi, 3-4 ans après le début de l'émission. Comment tu t'es retrouvé là-bas?
J'ai tourné Top Chef en 2012, donc je sais pas du tout c'était quoi la saison. Mais
je sais pas, je crois que ça a commencé en 2010, il me semble. Mais okay. Donc ça devait être 2-3 ans après.
Top Chef 2 ou Top Chef 3. Les mecs m'ont appelé, savoir si ça m'intéressait. J'ai dit oui, parce que j'ai tout de suite. J'ai grandi dans un commerce, hein, donc. J'ai tout de suite vu l'impact que ça aurait pu avoir au niveau de la com, si ça se passait bien. Donc j'ai été appelé une première fois, j'avais passé les tests en cuisine, ça s'était super bien passé, c'était Guy Le Guay,
oui.
le jury, qui doit être mof, je pense. Et ça s'était vraiment bien passé, j'avais fait un pigeonneau des Flandres avec des betteraves, du vinaigre maison, de fraises, je pense, et peut-être des baies fermentées, un truc comme ça. Et après, en partie interview, ils me demandent si j'ai une revanche à prendre sur la vie, sur quelqu'un. J'ai dit, bah non, moi je suis heureux, tout va bien. Si, voilà, ils me posent des questions, et pourquoi je serais Top Chef? Et je leur dis, bah, parce que c'est important de communiquer sur l'entreprise familiale. Et cette année-là, j'ai pas été pris. Et ils m'ont rappelé après, c'était Émilie qui m'a rappelé après. Émilie qui me dit, putain Florent, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu 18 en cuisine et en interview
3,
ça l'a pas fait quoi. J'ai dit, bah écoute, j'ai
répondu aux questions,
j'ai
naturellement
répondu aux questions, voilà, sans calculer. Et en même temps, j'avais jamais regardé Top Chef, donc je savais pas ce que c'était, je savais pas à quoi m'attendre. L'année d'après, il me rappelle, j'ai toujours pas regardé Top Chef. et il me demande si ça m'intéresse de faire Top Chef. Je dis bah oui, mais je cuisine peut-être un peu mieux qu'il y a un an, j'espère. Mais au niveau du discours, ce sera toujours la même chose, quoi. Ce sera pour l'auberge. J'ai la chance de pas avoir vécu de drame dans ma vie. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Et voilà, c'est pour l'auberge et pour la cuisine du Nord, l'image de la cuisine du Nord. Elle me dit, mais pourquoi tu m'as pas parlé de l'image de la cuisine du Nord l'année passée? Et j'ai dit, bah, c'est parce que l'année passée, elle n'était pas aussi importante à mes yeux. Et ils m'ont demandé si je voulais revenir faire les preuves en cuisine et tout. Je leur ai dit que j'avais pas le temps. Mais que je cuisinais pas moins bien que l'année passée. On a fait une interview sur Skype, donc j'ai dû télécharger Skype. Ils m'ont demandé de jouer de la guitare. Et de chanter, je l'ai fait. Je crois que c'était pour tester ma docilité. Et je l'ai fait, et du coup j'ai été pris, et puis voilà.
Et c'était parti. Ça a été un véritable tremplin. Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Ça a été un tremplin, ça a été surtout une super tribune pour parler de ce qui me tenait à cœur. Et à ce moment-là, ce qui me tenait à cœur, c'était toujours de sauver l'auberge, forcément. Et de mettre le Nord sur la carte. Parce que le Nord, même les grands chefs français pensaient encore que c'était une région sinistrée.
Que c'était l'horreur d'habiter ici. Et malgré ta défaite en finale, t'as remporté vraiment l'adhésion du public. T'as gagné le public qui t'a organisé une cagnotte.
Ça,
à leur propre de leur propre initiative.
Ouais, ça c'était un truc de fou. Ouais, j'ai eu cette chance de plaire aux gens. Et cette cagnotte, alors moi je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, enfin en perso j'y suis pas quoi. À l'époque je regardais parce que c'est quand même alors c'est super addictif de regarder ça. Mais c'était violent, parce que du jour au lendemain, sans que t'y sois préparé, d'un coup t'es connu. Moi je me souviens, la première diffusion, je crois que c'était un lundi soir à l'époque. C'était le lundi soir, et le mardi matin, ou le mardi après-midi, entre mes deux services, je vais faire les courses. Ça a été un bordel, mais attroupement quoi, tu vois. Et t'es pas prêt à ça, parce que c'est pas une... C'est pas une notoriété entre guillemets qui est bâtie petit à petit et tu ressens le changement. Là, c'est du jour au lendemain. Donc, je voulais voir ce qui se disait sur moi au début. Donc, je suivais, etc. Et cette histoire de cagnotte, c'est un pote qui m'en parle, qui fait « Putain, Flo, il y a une cagnotte pour toi, t'es au courant de ça ?» C'est un pote ou mon cousin, je pense. J'ai dit « Non, je suis pas au courant. » Et direct, j'ai mis un mot sur les réseaux sociaux. J'ai dit « Attention, il y a une cagnotte qui a été mise, qui a été lancée. Je ne connais pas ces mecs. L'argent, je le gagnerai en travaillant. Ne donnez pas. » Et finalement, les mecs m'ont envoyé un message en disant « Bah Florent, en fait, la cagnotte, on t'avait prévenu par Messenger que... » Je sais même pas si ça existait déjà, Messenger, à ce moment-là. De toute façon, j'y connais rien.
Réseaux sociaux, et t'avais pas vu.
Et j'avais pas vu, parce que je pouvais pas tout lire. Et qu'on avait du boulot, quoi, du coup. J'ai passé mon temps en cuisine. Mes journées, une partie des nuits, quoi. Donc, et à Paris aussi, parce que il fallait faire d'autres choses à côté. Et j'avais pas vu. Et du coup, j'ai pas fait de message pour démentir ce truc. Parce que je leur ai dit, j'ai dit, les mecs, moi je suis mal à l'aise par rapport à ça. L'argent, je l'ai toujours gagné en travaillant depuis que je suis tout petit. Et sur cette cagnotte, les mecs ont récolté 14 000 euros. Ce qui est un truc de maboule. Et ça coïncidait avec l'ouverture du Bloompot. C'est bien parce que Kevin et moi, donc Kev, c'est mon associé. Kev et moi, on avait vidé nos comptes et on avait réussi à réunir 3 700 euros. Pour en apport personnel pour ouvrir un resto. Donc cette cagnotte a servi à acheter un four. Quoi.
Oh, c'est cool.
Ça a été dingue. Ouais. Mais aujourd'hui encore, je suis pas à l'aise avec ça. C'était la première fois que ça se faisait.
À des associations.
Ouais, on avait aussi balancé à des associations. Mmh. Bah oui. Bah ouais. Et parce que je suis pas à l'aise avec ça, je l'étais pas à l'époque, je le suis toujours pas. Moi, j'ai grandi dans la valeur du travail et l'argent, ça tombe pas du ciel. En tout cas, dans notre famille, c'est jamais tombé du ciel. Donc,
un petit peu.
Là, pour le coup, il y a 14 000 euros qui sont tombés du ciel et il y a encore merci aux gens qui ont donné. Il y a des clients qui me disent, j'ai donné et tout. Du coup, quand c'est comme ça, on boit un coup. Mmh. Les mecs qui ont créé cette cagnotte, j'ai oublié leur prénom, mais c'était sur Litchi. Alors, pareil, Litchi, j'avais jamais entendu parler, quoi. Sont venus pour déposer le chèque, on a fait une grosse bringue, enfin c'était fou, mais c'était bien quoi. Ouais. C'est des mecs qui ont lancé ça comme ça depuis chez eux, ils étaient étudiants, enfin encore une fois mille merci quoi.
T'avais envie de venir à la ville après avoir tenu et développé l'auberge en rase campagne.
En fait c'est un truc, c'est une histoire toute conne. L'histoire du Bloompot. Moi, je suis. J'évite de me projeter de trop et je m'adapte toujours. J'aime bien m'adapter à n'importe quelle situation. Et à l'époque, j'allais être papa. J'avais une maison qui était vraiment cool, mais avec un petit garçon, c'était pas l'idéal. Avec un bébé, elle était pas simple. Et je vais sur Le Bon Coin pour voir un petit peu la valeur de la maison. Voir ce qui se vend, ce qui s'achète pour ce type de maison en Flandre. Et il y avait une publication sponsorisée qui était donc en tête de page. Et c'était Entrepôt à louer, Vieux-Lille. Je clique dessus pour voir, il n'y avait que 3 photos. Et toute la nuit, donc j'avais fait ça après un service. Je suis rentré chez moi, il était minuit et demi, un truc comme ça. Et toute la nuit, je pense à ces 3 photos. Le lendemain matin, je me réveille à 7h, j'essaye d'appeler le numéro de téléphone direct. Forcément, il n'y a personne qui répond. Parce que dans ma tête, c'était un mec qui avait mis ça, mais non, c'était une agence, forcément. J'étais plein de naïveté. et finalement, j'arrive à les avoir au téléphone à 8h. 2 jours après, je visite le lieu. Une semaine après avoir vu les photos, je signe. Et après, mon père me dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Et j'en avais aucune idée.
Ah ouais, juste
à l'époque, Kevin était en Australie. Ouais. Mais j'ai juste vu ce truc.
Il y a un coup de cœur.
J'y vais, il y a un potentiel de fou.
Je peux comprendre parce que quand tu vois le lieu, c'est vrai que.
C'est un coup de cœur, un coup de tête, c'est un truc.
Ouais, c'est un peu caché.
Une allée de 30 mètres, t'es au cœur de l'île, au cœur de Vieux-Lille, mais tu ne vois aucune bagnole, tu n'entends aucune voiture. Enfin, c'est. Tu vois personne, enfin, c'est. Limite, cet endroit-là. Alors, un mec qui veut y faire sa maison, c'est rêver, quoi.
Ouais.
Moi, je peux pas vivre en ville, mais un mec qui veut y faire sa maison, c'est génial. Ouais. C'était l'endroit parfait, quoi. En location, pas cher, forcément, vu l'état du truc. C'était un taudis, quoi.
C'était un garage,
ouais. Ouais, ça a été un garage, et ensuite, c'était une menuiserie. Donc c'était un atelier.
Ouais, non mais trop bien. Enfin, voilà. Si t'aimes ce genre d'endroit, voilà.
Avec des briques, des pierres, des pavés qui te racontent une histoire.
Il y a une cour aussi. Tout cas, il y a de la lumière.
Il y a de la lumière. On a travaillé sur la lumière zénitale aussi parce que forcément c'est un atelier, donc il était enclavé dans des bâtiments plus hauts. Mais ouais, c'est un endroit dingue, quoi. Et donc je me retrouve à ouvrir un truc. Kevin revient plus rapidement que prévu d'Australie. Il devait rester un an ou deux, et il revient au bout de 7 mois. Un truc genre 2 semaines après que j'ai signé, quoi. Il me dit, je sais pas ce que je vais faire. Je dis, bah écoute, j'ai peut-être une idée.
C'est un
et
lieu.
Et je lui montre le truc, il fait, c'est quoi ça? Je dis, bah je loue ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans? Je dis, bah je sais pas. Bon, on y va? Il me dit, ouais. Et le Bloompot, ça a commencé comme ça.
Énorme succès, je me souviens que c'était ultra difficile. Ouais. Enfin, ça reste, je pense, difficile d'avoir une table... là-bas, et c'est ce qui t'a poussé à ouvrir ce troisième endroit où on est aujourd'hui.
Au Bloompot, en fait, dans un premier temps, on a fait que dupliquer ce qu'on faisait à l'auberge. Ensuite, le Bloompot a eu l'âge de s'émanciper un peu comme un bébé, quoi. Il a eu l'âge de devenir un peu plus indépendant. J'ai eu aussi des chefs qui ont fait que je pouvais leur laisser un peu plus la main dessus. Et moi, j'étais prêt aussi à le faire avant. Pas que les chefs d'avant ne savaient pas le faire, c'est juste... moi, je n'avais pas envisagé de faire autre chose que ce que je faisais à l'auberge, qui était la seule chose que je savais faire. Aujourd'hui, on travaille différemment, au Bloompot et à l'auberge. C'est deux cuisines... c'est deux sœurs, quoi. L'auberge et le Bloompot. Donc, qui ont la même génétique, qui ont la même éducation, mais qui vivent leur vie chacun de leur côté. Par rapport aux valeurs qu'elles ont, qui sont communes. Aujourd'hui, c'est Florence, ma chef au Bloompot, qui a des choses à dire, qui a énormément de choses à montrer, à faire. Et qui je serais si je la limitais à ce que moi, je sais faire. Donc voilà, c'est très différent. Et on a ouvert le Beer Buick. Parce qu'en fait, moi, ça me tenait à cœur de montrer qu'on pouvait étendre notre concept d'ultra-local avec nos valeurs, sur des prix beaucoup plus bas, parce que je voulais aussi trouver un endroit où je peux venir manger avant un service ou après un service, quelque chose d'autre qu'un kebab ou un sandwich, parce que je voulais créer un estaminet
nouvelle génération,
ouais. Nouvelle version d'estaminet. Ça ressemble pas à un estaminet, mais l'accueil, le côté chaleureux, l'échange que tu vas avoir avec d'autres personnes parce qu'elles sont à côté de toi, comme ce que je vivais en Flandre depuis des années, que j'avais jamais vu à Lille. Et voilà. Et puis aussi parce que ça faisait 3 ans que j'entendais « Ah, tu vas ouvrir un troisième restaurant ?» Alors que pas du tout. mais
tout le monde
toutes ces petites rumeurs m'ont titillé un petit peu. Et ouais, on l'a fait. Mais c'est toujours des... Quand on s'engage dans un truc, c'est toujours un coup de tête ou un coup de cœur ou les deux. Donc c'est quelque chose de très léger. Par contre, après, on y va, on bosse. On bosse vraiment comme des tarés pour que ça se passe bien. J'ai la chance d'être entouré, d'être super bien entouré. Et on arrive à s'entourer aussi. Donc ça, c'est bien, on grandit ensemble. Et voilà, on n'est pas encore au monde des bisounours. Y a un gros sujet là que j'ai en tête, moi, c'est le travail dans la restauration. Pourquoi ? Parce qu'on travaille dans la restauration, on devrait travailler 2 fois plus que les autres. Alors chez nous, on ne le fait pas, mais on travaille plus que 39 heures. Et c'est pas normal. Est-ce qu'on va réussir à faire travailler les gens 39 heures en gardant ces prix-là? Je ne pense pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être compenser par faire des semaines de 4 jours de travail. Et on va commencer avec le vaisseau mère, le vaisseau amiral, c'est le Vermont, parce que c'est là que je teste ces trucs-là. Je teste ça au Vermont. Et c'est pas savoir si ça va marcher ou si ça ne marchera pas. C'est comment ça va marcher.
Se donner les moyens de bien
arriver. Et quand ça va marcher, on l'appliquera aux autres restaurants.
Souvent, en discutant avec d'autres chefs de ça, d'autres choses, comment t'organises le travail, c'est se donner les moyens, finalement, d'y arriver. Même si c'est difficile, c'est
sortir
à tous les niveaux. Quoi.
D'une forme confort, de confort qui ne l'est pas du tout. Hein, parce que tes mecs, ils bossent 50 heures par semaine. C'est pas normal, c'est une habitude. Ouais. Mais c'est bien, c'est une habitude que t'as pas envie de voir. Ouais. Parce que tes mecs acceptent de bosser 50 heures par semaine. Parce que c'est leur restauration. Mais c'est pas normal. C'est pas parce que tu travailles dans la restauration que tu dois pas avoir de vie à côté. Il faut que tu sois heureux au boulot pour être heureux chez toi. et inversement. Et c'est pas parce que tu fais un métier de passion qu'il doit avoir que ça, quoi. Moi, j'ai mis la musique de côté depuis des années maintenant et ça me gonfle. Mais voilà, un jour, ça changera. Peut-être que je saurai réenchaîner quelques accords dans quelques années. Mais voilà.
Tu mets de plus en plus en avant un retour à une cuisine primitive, brute, sauvage, le feu. T'en parlais. Les années passent et le superflu trépasse.
Ouais, peut-être que je m'assagis. Je suis pas sûr, ceux qui me connaissent.
Mais ouais, ouais, non, ta non, cuisine mais... était superflue,
elle était beaucoup plus superflue qu'aujourd'hui. Parce qu'on cherchait des gimmicks, parce qu'on cherchait des trucs, parce que voilà. Alors qu'en fait, quand tu vas puiser dans tes racines, il y a tout ce qu'il faut. Nous, le sol est fertile ici. Hein,
c'est pas sinistré.
Propre et imagé. La terre est très fertile, c'est pour ça qu'on a été longtemps et qu'on reste encore le grenier d'une bonne partie de la France. Et puis en même temps, on est 6 millions et demi d'habitants sur le Nord-Pas-de-Calais. On est très 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 nombreux. Il y a une densité de population qui est en plus très jeune, donc qui mange beaucoup. Voilà, et ça c'était pour le sens propre. Et puis le sol est fertile pour le sens imagé, c'est la culture, c'est tout ça. Et ouais, je suis dans ce truc primitif, dans ce truc de dégager tout ce qui n'est pas essentiel. Je dis très souvent, le reste, c'est des paillettes. Et c'est vrai, quoi. Les paillettes, c'est bien. Le carnaval, c'est bien. Mais pas dans une assiette. Le carnaval, c'est magique quand tu le vis dans une rue sous la pluie qui fait 3 degrés et que t'es entouré de gens que t'aimes et que tu connais même pas.
Le feu, là, en tout cas.
Et on travaille le feu de bois, ouais, parce que c'est génial. Ouais. Le feu de bois,
c'est... Tu me disais, au Vermont, vous avez fait des travaux et il y a un grand feu de cheminée.
Ouais, au Vermont, maintenant.
Vous cuisinez dedans.
Ouais, quand tu rentres au Vermont, tu rentres par la cuisine. Et la première chose que tu vois, c'est le feu, le foyer. Il y a un rapport au feu qui est génial pour le client. Parce que tout de suite ça te met dans une ambiance qui est géniale. Y a un rapport en tant que cuisinier avec le feu qui est extraordinaire, c'est que d'un jour à l'autre tu ne sais plus rien, d'un bout de bois à l'autre tu ne sais plus rien. Au Birbeck on a un four à pizza, un feu fermé.
Oui, donc, parce que j'ai vu
ouais. Donc dôme, tu vois le feu, ouais. Mais il est fermé, ouais. Au Vermont on cuisine à la cheminée, donc selon l'hygrométrie, selon la pression extérieur, selon le vent, le sens du vent, selon le bois que tu vas mettre, d'un jour à l'autre, tu ne sais plus rien. Et ça, c'est génial. Encore une fois, c'est sortir d'une forme de confort. Ouais. Parce qu'on n'a pas l'âge pour être dans le confort. Alors oui, il faut accepter d'arriver le matin une heure plus tôt pour mettre ton feu en route.
Et de ne pas tout maîtriser.
Mais le résultat est tellement génial. Ouais.
Moi, j'ai une tradition dans mon podcast, c'est un petit questionnaire aller-retour que j'ai changé, que j'ai fait évoluer. Ton plat préféré de tous les temps ?
J'adore le pape tarte ou la poule au riz. Le pape tarte, c'est une tarte au lait battue. C'est ma mamie qui fait ça. La poule au riz, je trouve ça dingue. Poule au pot. Ouais, poule au pot, on va dire. Enfin, j'adore ces potées. Les potées, je trouve ça dingue. Les trucs que tu peux manger sur plusieurs jours, tu le fais une fois. C'est long à cuire, mais après...
Le kiff dure plusieurs jours, c'est plusieurs
ça.
Repas.
C'est ça.
Ton livre de recettes fétiches ?
Alors, je viens de recevoir... Alors, fétiche, je sais pas. J'en ai eu énormément, des livres fétiches. Je viens de recevoir un livre de No Diet Club, avec que des recettes bien grasses, etc. Et c'est peut-être parce qu'on a besoin un peu d'être réconforté en ce moment... Parce qu'on fait pas notre métier, mais en ce moment c'est ça. J'ai aussi acheté le livre de Guillaume Sanchez, qui est vraiment cool. J'ai commencé à le lire. C'est pas du tout le même délire que No Diet Club, attention. J'ai commencé à le lire. Il faut être un peu plus posé. Il faut que j'arrive à me prévoir une fenêtre de 30 minutes où je sais que je vais pas être dérangé, parce que c'est un peu plus profond. Mais je le trouve très beau et très bien aussi. J'ai pas de livre fétiche.
Le dernier ingrédient que t'as découvert ?
C'est la citronnelle. Driss me cultive de la citronnelle maintenant.
J'allais dire de la citronnelle flamande.
De la citronnelle flamande. Donc c'est dur comme du bois. Mais c'est génial. Là on fait pour le Beer Bike to Go, Beer Bike at a Case, pardon. Beer Bike at a Case, on a fait des. J'ai mon chef là, Bastien. Sa maman a vécu 3 ans dans les Antilles. Donc elle fait les acras avant qu'ils naissent, donc il y a une trentaine d'années, je pense. Et elle fait les acras comme là-bas. Donc on a sa recette à elle, mais on l'a faite avec que des produits d'ici. On a aussi du piment ici, on a de la citronnelle du coup. On l'a pas fait à la morue, on l'a fait au cabillaud. Et c'est génial. Donc je veux dire la citronnelle pour le dernier produit.
Les trucs les plus trash que t'aies mangé?
Le truc le plus trash que j'ai mangé, c'est de la baleine.
Ah ouais.
Ouais. baleine ou phoque. Ouais. Enfin, j'ai mangé les deux au même moment. Quand j'étais petit, j'ai mangé de la soupe de tortue.
En Chine?
Non, dans les Antilles. Ouais. C'était mes grands-parents m'avaient invité, nous avaient invités avec la famille dans les Antilles. J'ai mangé ça. Mais là, c'était de la baleine ou du phoque. Alors, tout le monde voit le phoque, etc. La baleine aussi. Moi aussi, je le vois de cette façon-là. Est-ce que c'est normal de manger de la baleine si tu la manges à Copenhague? Non. Ou si tu la manges, je sais pas où. Mais quand t'es au Groenland, et que j'y suis allé au Groenland en fait pour travailler pendant 2 semaines, donc c'était défrayé par le gouvernement danois. Donc j'étais avec Daniel Burns, qui est l'ancien chef pâtissier du Noma. Et on a bossé pour offrir des perspectives de développement économique, parce qu'il y a un taux de suicide qui est énorme là. Voilà. Donc nous, on a bossé sur les algues pendant 2 semaines. C'était une expérience folle. On est allé en bateau pêcher les algues. Pêcher les algues ? Cueillir ? Pêcher les algues. Cueillir dans l'eau, les algues. Et après 4 heures de bateau, on s'est fait un stop sur une petite île parce qu'il y avait... Parce qu'il y avait une tempête qui arrivait et qu'il fallait se mettre à l'abri pendant quelques heures. Et on s'est mis là-bas, on arrivait sur l'île, il faisait moins 38 degrés. Aujourd'hui, on parle beaucoup en froid ressenti. J'ai aucune idée de ce que moins 38 degrés en froid ressenti représente. Je sais juste qu'on était habillé en peau de phoque, que j'avais mes vêtements de fou en dessous, etc. Et que j'avais pas froid, mais j'avais pas chaud non plus. Et qu'il fallait surtout attendre d'être à l'intérieur pour pisser. Et c'était dingue, quoi. On arrive chez une vieille dame que le propriétaire du bateau connaissait. Et elle nous a fait de la baleine. Elle nous a fait un café avec du gras de phoque. Et en fait, là-bas, ça fait sens parce que la baleine, on l'a vu, hein, elle était au milieu des 3 maisons. C'était une baleine qu'ils ont pêchée pour se nourrir à l'année. Et ils font ça depuis des années. C'est pas eux qui butent les baleines. C'est pas ces gens au Groenland qui font qu'il n'y a plus de baleine aujourd'hui, que la baleine est en voie de disparition, d'extinction. C'est pas ces mecs-là. Donc j'ai mangé de la baleine, c'est hardcore. S'il fallait expliquer, en fait la baleine, bizarrement, c'est une viande très maigre. Là, elle n'avait pas été pêchée de la veille. J'avais l'impression de manger... Je sais pas, c'est comme si tu croques dans un vieux sanglier mâle maturé pendant quelques mois, quoi.
Ouais, c'est plus viande que poisson. Enfin,
ah ouais, c'est de la viande. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Est-ce que c'était bon ? Non, c'était vraiment pas bon. Mais cette dame était tellement contente de cuisiner pour nous que ce moment était magique, en fait.
De ton dernier meilleur repas ?
Au restaurant, c'était chez Brut. C'est Bruno Timperman, en Belgique, à Bruges. C'est génial. Un tout petit resto, faut y aller. Faut faire attention parce que c'est une embuscade. Je suis sorti de là-bas, j'ai un tatouage Brut quand même sur le bras.
Un vrai tatouage?
Ouais, on a fait une grosse bringue et j'ai le nom du restaurant tatoué sur mon bras. Je me suis réveillé le mardi matin, je me suis dit, j'ai quand même pas fait ça, quoi. Bah si, je l'avais fait. Mais c'est vraiment génial. Et sinon, mon dernier truc cool que j'ai mangé, bah, c'était... Hier, ici, on a fait les tests de Flamiche, ail des ours et fromage du Mondeca. Et c'était vraiment bien.
Une technique que t'as découverte récemment ?
La cuisson au feu de bois. Ça fait un an que je le fais vraiment de façon intensive. On a toujours cuit un peu au feu de bois, mais c'était derrière à l'auberge ou dans la cour du Bloompot, dans un vieux puits. Donc c'était pas tout le menu, mais la cuisine au feu de bois.
Le ou la chef à suivre ?
Bruno Timperman, de Brut. Florence Grave, au Bloempot. Après, dans le coin ici, il y, y a des super chefs qui travaillent pas pour moi. Non, mais dans le coin ici, je pense à Ismaël Gerganton, je sais pas comment ça se dit, mais Ismaël, qui est à Empreinte. Il y a, y a un mec qui a un super projet, Arthur Pena, qui est chef d'Empreinte aujourd'hui. Il y a un super projet, il faut le suivre. Ça va s'appeler, je sais pas quoi, mais c'est même pas moi d'en parler. Je sais comment ça. Mais il faut suivre ce mec, Arthur Pena.
Ta musique pour cuisiner.
Ça dépend où je suis. Ça dépend dans quel resto je suis. Et en fait, la musique que je que je mets en cuisine, c'est la musique que les clients vont entendre. Donc j'essaie toujours d'être. Pour moi, la musique a une place super importante quand on mange, quand on fait un repas. Je supporte pas de bouffer de la musique jazz lounge ou.
Descends ça.
Enfin, je supporte vraiment pas ça. Au Vermont, on va passer du The Dead South. Donc c'est un peu, c'est du bluegrass. C'est un peu de la musique de c'est de la country mais un peu plus soul. On va passer ça. On va passer les Black Rebel Motorcycle Club. On va passer White Buffalo. S'il faut des groupes un peu plus connus. Je vais mettre le dernier album de Johnny Cash, par exemple, où il est tout seul avec sa guitare. Des trucs comme ça. Au Bloempot, on va être sur The Dead South aussi. On va passer aussi un peu les Pogs. Au Bloempot, je sais pas pourquoi, j'adore passer du William Scheller. Enfin, je sais pourquoi, j'adore William Scheller, mais je sais pas pourquoi je fais pas l'auberge, mais je fais au Bloempot. Voilà, et au Beerbuyck, là, je me lâche. Là, c'est mon côté... C'est mon côté enfant des années 80. Non, pas du tout métal. Enfant des années 80, donc je vais mettre du Britney Spears, je vais mettre Eternal Flame, des Atomic Kitten. c'est ma part féminine qui s'exprime un peu. Je vais passer de temps en temps du Frankie Vincent, ce que j'aime bien. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais j'aime bien, ça me fait marrer. Voilà.
Et un compte Instagram que tu aimes suivre?
If You High. Donc IFYOUHIGH. C'est que des trucs un peu psychédéliques, etc. Je suis désolé, je réponds pas à ta question en un compte parce que j'en balançais plein. Et j'aime beaucoup, non pas plein parce que
quelques-uns.
J'aime beaucoup Funny When It's Wrong. C'est que des conneries toujours. Et ça me fait vraiment marrer. Et No Diet Club, c'est la deuxième fois que j'en parle, mais c'est vraiment trop cool ce qu'elle fait.
Bon, j'ai fini l'aller-retour. Tu connais tous tes producteurs qui sont tes voisins, c'est un cercle économique vertueux. Tu les as aidés aussi, certains, à relancer des productions. Ils te permettent d'avoir des meilleurs produits possibles. Voilà, enfin, c'est vraiment un cercle vertueux, c'est ça que je veux
dire. C'est un cercle vertueux. Je suis dépendant d'eux. Plus qu'ils ne sont dépendants de moi, parce que je suis pas le seul restaurateur à leur acheter des produits. Par contre, avec trois restaurants, quand on leur passe des commandes, ça déconne pas, quoi. On passe des grosses commandes chez eux, mais c'est moi qui suis dépendant d'eux. Comme chaque cuisinier devrait être dépendant de producteurs autour de chez lui, et pas d'un grossiste.
Et cette conscience locale, ce qu'on disait, mais aussi écologique, finalement, forte, ça a toujours été là.
Ça a toujours été là, mais ça s'est pas fait en un jour, parce que quand j'ai commencé à cuisiner, quand j'avais 18 ans, d'ailleurs, j'ai 36 ans, donc il y a la moitié de ma vie que je cuisine.
Bon anniversaire.
Quand j'ai commencé à cuisiner à 18 ans, le terroir n'était pas aussi dynamique. Il n'y avait pas autant de petits agriculteurs qui commençaient. Il n'y avait pas cette nouvelle génération qui se réemparait d'un terroir et de façon de faire un peu moins technologique, mais un peu plus ancestral, pardon, et un peu plus ancré et pleine de sens. Moi, j'avais pas le bagage technique pour ne faire que ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a fallu que je me tourne vers la pâtisserie, vers la cuisine japonaise, vers tous ces trucs-là pour me rendre compte qu'en fait, la cuisine qui me plaisait, que je savais faire, c'était la cuisine flamande. Donc ça a été un process qui a été très long. Il s'est écoulé une dizaine d'années, je pense, avant de pouvoir le faire. Et puis le 100% local, c'est arrivé avec le sel. Il nous manquait le sel, en fait. Et le sel est arrivé il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est il y a 2 ans, 3 ans. J'ai un très gros problème de mémoire. je suis désolé, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Mais ouais, c'est il y a 2-3 ans qu'on est passé en 100% local. Donc c'est pas un truc... Aujourd'hui, on peut le faire. Un mec qui arrive, et je comprends pas d'ailleurs pourquoi, vu l'engouement que ça a. Vu que...
Pourquoi t'es le seul à le faire, finalement?
Voilà. Enfin, on bosse sur... Aujourd'hui, tous les chefs vont dire qu'ils travaillent des produits locaux. Mais ils vont pas dire à combien de pourcents. Et donc, c'est facile à dire. C'est comme si je disais tout ce que je travaille... Enfin, je travaille des produits sauvages. Mais je fais quoi? Je fais de la cueillette. Ça doit représenter 2% en poids, ou 1%. Même dans les grandes saisons de champignons, ça doit représenter 1% en poids de la came qui rentre chez moi. Donc c'est ça, moi. Il faut être honnête avec les gens. Et si on dit qu'on travaille des produits locaux, si on communique sur le fait de travailler des produits locaux, on claque pas des agrumes partout, et on claque pas des épices et du chocolat. Parce que tu fais ce que tu veux chez toi. Mais n'utilise pas ce terme, ne galvaude pas ce terme, parce qu'il est tendance. C'est bien plus qu'une tendance, c'est une vision, c'est un truc qui est très différent. C'est, écologiquement, c'est énorme. Économiquement, c'est énorme. Humainement, socialement, c'est énorme.
C'est bien pour toutes les raisons que tu as citées. Je trouve aussi que c'est bien parce que ça permet de faire une cuisine qui est effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, pas la même. Tu la mangeras pas dans le sud.
C'est tout l'intérêt de voyager. Enfin, moi, y a parfois des mecs qui me disent « Putain, mais toi, t'es bien avec l'office du tourisme ou quoi ?» Je dis « Bah non, je les connais pas, l'office du tourisme. » Il dit « Mais regarde, ça parle anglais, ça parle 4 langues différentes dans le resto. T'as des gens qui viennent du sud de la France. Et chez moi, non. » Je dis « Bah ouais, mais je reprends mon image tout à l'heure de manger une choucroute sur le Vieux-Port à Marseille. C'est pareil, si je vais à Marseille, je vais aller manger... Je vais aller manger chez Alex pour faire un bisou. Alex Mazia. Mais je vais aller manger... chez Paul, au Good, parce que je sais que je vais avoir que des produits de là-bas, c'est dans les Calanques, c'est, ça, ouais. C'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Dans les Calanques, c'est génial comme endroit, c'est Alex qui m'avait chopé une table là-bas, et c'est vraiment fou, et si je vis pas à Lille et que je viens manger à Lille, bah je vais vouloir découvrir la cuisine de Lille, parce que c'est découvrir un terroir, c'est une nouvelle ville, une nouvelle région, un nouveau pays, c'est voir d'autres choses, c'est parler avec les gens de là-bas, et c'est manger leur culture, ouais. Quoi.
Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi ?
Ce que ça représente pour moi, c'est aujourd'hui, c'est un super moyen d'expression et de rendre concret mes valeurs. Et ça touche tout le monde, la cuisine. Tout le monde cuisine, tout le monde mange. Et je l'ai déjà dit. Ouais, c'est une punchline, c'est tout con. Enfin, ça peut paraître presque démago, mais manger, c'est voter 3 fois par jour. Je le répète, et c'est vrai. Et ça a un impact. Plutôt que de gueuler sur le président, sur tout le monde, sur les mecs qui décident, sur les gros industriels, les gars qui nous empoisonnent, c'est pas en votant une fois tous les 5 ans que tu vas changer ça. Parce que de toute façon, on le voit très bien que ça changera pas ça. Si tu veux...
Bah, t'es acteur.
Je vois pas comment le dire poliment.
Acteur de son quotidien.
Si tu veux briser un système que t'aimes pas, n'en fais pas partie. Ne remplis pas la gamelle des mecs que t'aimes pas.
Comment tu te présentes? Enfin, on te connaît, mais tu vois, comment tu te sens? Tu te sens plutôt chef, cuisinier, restaurateur, entrepreneur?
Ça dépend des
directeur
heures.
Directeur artistique.
Ça dépend des heures.
Quel mot tu vas utiliser en premier?
Je suis restaurateur. Parce que être chef de cuisine, j'adore, mais aujourd'hui, je me dois d'avoir une vision plus globale du métier. Mais si tu viens en service, je suis chef de cuisine. Si tu viens le matin, je suis secrétaire. si tu viens là, je suis attaché de presse. j'ai une seule tête, mais pas mal de casquettes, et c'est génial.
C'est un choix d'avoir des restaurants vraiment accessibles économiquement, ouais. Autant à Lille que même à l'auberge du Vermont. J'ai regardé le menu, il est à 50
euros. Il
est
à 50 euros.
Ce qui est quand même
50 euros pour 5, 6 ou 7 envois, ça dépend de ce qu'on va mettre.
Ouais.
50 euros, c'est déjà un budget, hein, je le conçois.
Ouais, c'est un budget, mais voilà. À l'échelle, on va dire, si on compare à d'autres restaurants de la même catégorie, c'est quand même
c'est
super... 30,
c'est 30 balles de moins, ouais. Au
super
moins.
Super accessible. C'est ouais. Un choix.
Ouais, c'est un choix. Je vais avoir des clients qui me ressemblent. Je vais avoir tout le monde, en fait, dans mon restaurant. Je vais pouvoir toucher tout le monde. La mixité sociale, la mixité générationnelle, je trouve ça super intéressant, important et vital.
Mais ça se ressent, je trouve, quand... Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais venue dans ton restaurant, justement, il y avait une clientèle très mélangée, je trouve.
Ouais.
Et
c'est trop
chouette.
Bien.
Enfin, c'est... Tu sais, ça a un côté... c'est pas du tout péjoratif, ce que je veux dire, mais... Enfin, peut-être désuet ou parce que j'avais l'impression, tu vois, d'être peut-être dans, tu sais, dans une expérience que j'avais pu vivre par le passé, tu vois, enfant, où cette impression de que le restaurant il est ouvert à tout le monde.
Ouais. Moi, mon grand fantasme, c'est le restaurant routier.
Moi aussi, j'adore.
Enfin, voilà, un jour, je ferai un routier. Vraiment. Là, j'ai une grosse pression parce qu'il y a Peter du Terminus qui le fait beaucoup mieux que moi, mais un jour, je ferai un routier. J'adore ça. Je veux pas, je te parlais tout à l'heure des cliques. Je ne veux pas cuisiner pour une élite, pour une clique. Je veux pas, je fais pas partie de ce monde-là. J'en ferai jamais partie. Je veux que tout le monde soit en mesure de pouvoir manger chez moi dans l'un des restaurants. Alors 50 euros, c'est un budget, c'est énorme. Mais on peut venir manger des falafels à 1,50€ au Birbeck, quoi. Des falafels de lentilles germées. Je veux que tout le monde puisse venir chez moi. J'impose déjà beaucoup de choses. Le fait de manger que du local, le truc, de manger tes frites avec tes doigts. Ne me demande surtout jamais de fourchette pour manger tes frites à l'auberge. Non, si vraiment tu veux, tu le fais. Mais, mais je te regarderai bizarre tout le reste du service. Quoi. Mais non, mais on impose déjà cette chose et on ne travaille pas pour nous, on ne cuisine pas pour nous, on travaille pour les clients, on fait un métier de service. Si en plus d'imposer ça, t'imposes... Enfin, tu te coupes de 80% de tes clients parce que tu veux toucher qu'une que tu ne veux ou que tu ne vas toucher qu'une catégorie de personnes, bah ton métier est quand même beaucoup moins funky. Moi chez moi à l'auberge, je viens manger, t'as des mecs qui débarquent des cyclistes, hein. Les mecs qui viennent quand ils marchent sur le parquet, ça fait clac 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 parce qu'ils ont leurs chaussures de sportif là, ils sont en cycliste et tout. Enfin, c'est il y a ça, t'as un couple de personnes âgées qui venaient déjà à l'époque de mes grands-parents, t'as un mec qui a 17 ans, qui a bossé pendant quelques week-ends pour inviter sa copine à manger, qui a été déposée par ses parents. T'as des clients jeunes, t'as des clients moins jeunes. C'est un panel assez représentatif de la société. Et moi, j'ai envie d'avoir l'impression de vivre dans ma société, pas dans une bulle, pas dans une cage dorée, pas dans une tour de verre.
Ce qui est aujourd'hui aussi, je pense, peut te le rendre, parce que à cette ère de pandémie où les voyages sont vraiment restreints, c'est vrai que de passer de couper de sa clientèle locale...
C'est ça. Aujourd'hui, ça fait double sens même. Ouais. Parce que les mecs qui travaillent avec des touristes, qu'avec des clients qui n'ont pas... Enfin, si t'as un restaurant et que les gens autour de toi n'ont pas les moyens de venir manger chez toi, là, pendant quelques mois encore, années peut-être, je sais pas comment tu vas faire.
T'as reçu plein de distinctions, Fooding, Gomio, Omnivore, et puis l'étoile qui est venue et repartie. C'est important, les récompenses, les distinctions?
Ça... Important, non. Ça flatte. C'est juste une question d'ego, ça, après, hein. Mais une fois que tu les as eus, c'est tout. Enfin, moi, mon métier, je fais pas ce métier-là pour avoir mon nom écrit noir sur blanc dans un guide. Je fais ce métier-là pour mes valeurs, pour ce qui m'importe, c'est de pouvoir payer tout le monde en temps et en heure. Et c'est pas c'est pas ton nom dans un guide qui va payer tes gars. Des restaurants. Avec je sais pas combien de togs, je sais pas quelle note, je sais pas combien de macarons, qui n'arrivent pas à s'en sortir de façon économique, il y en a beaucoup. Parce que c'est un jeu et puis qu'on rentre là-dedans. Et comme moi je suis rentré dans cette histoire de cohérence, voilà. Est-ce que c'est important? Non. Et moi, j'avais juste peur de la, par rapport à la perte de l'étoile. Là.
J'avais juste peur des retombées économiques et
tout va bien. De faire moins de chiffre d'affaires, ouais. De toucher moins les clients. Mais en même temps, il y a plein de clients qui venaient chez moi qui ne savaient pas qu'on avait une étoile au guide Michelin parce qu'on n'avait pas mis de, ouais. On n'avait jamais mis la plaque. Et
ça t'a fait mal ?
Non.
La perte
Non, j'ai juste pas compris et je comprends toujours pas parce que j'ai pas eu d'explication claire. Enfin, j'ai pas eu d'explication. Je les ai eu au téléphone quand même. Si vous voulez, on peut vous appeler dans les deux semaines pour vous expliquer. J'ai dit, bah ouais, j'aimerais bien comprendre. J'ai pas compris pourquoi on l'a perdu, comme j'ai pas compris pourquoi on l'avait eu il y a 7 ans.
Bon, bah voilà.
Mais bon, voilà, c'est. Moi, je suis joueur. Je suis très joueur. Le seul truc, c'est que. Il y a 7 ou 8 ans, ou 6, je sais plus. On jouait du mieux qu'on pouvait, mais honnêtement, on jouait quand même pas aussi bien que maintenant. Et il y a 6, 7 ou 8 ans, on a gagné. Et là, on a perdu. Alors qu'on joue mieux, et on ne sait pas pourquoi. Donc, je suis très joueur, mais il faut que je connaisse les règles. Ouais. Mais je ne suis pas fâché, je ne suis pas revanchard.
C'est un point d'interrogation.
Et ce n'est pas grave. Ouais. Vraiment, ce n'est pas grave.
Ton autre grande passion, c'est la musique. Tu as encore le temps d'en écouter, du moins dans les restaurants, en faisant des playlists.
Chez nous, il n'y a pas de mise en place sans musique, il n'y a pas de service sans musique. Il y a toujours de la musique. Et bon, l'autre jour, j'ai quand même réussi à sortir ma guitare 5 minutes et puis à jouer un petit peu. Ça m'a fait du bien, mais oui, on chante, on danse et on écoute de la musique. Ça fait partie du bonheur aussi.
Tes futurs projets, te remettre à la musique, justement.
Ah. Les futurs projets, non, me remettre à la musique, ce sera quand j'aurai réussi à caler la semaine de 4 jours pour tout Omega. Les futurs projets, c'est travailler sur l'humain, sur ça.
Ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Justement,
c'est ça.
L'organisation du travail.
Après, il y a peut-être d'autres choses qui vont se décanter, mais pour l'instant, ce serait beaucoup trop. C'est beaucoup trop aléatoire et en parler, ce serait trop hypothétique, trop. Mais on verra bien.
Bon, ça y est, on arrive à la fin. Est-ce que tu as une petite recette à nous donner? C'est ce que je demande à la fin à mes invités. Une recette facile si on veut cuisiner comme toi à la maison. Vraiment un truc. Ce que tu fais à ton fils ou. Voilà.
Ouais, moi, ce que je fais à mon fils. Lui, son père est restaurateur ou chef, ça dépend des heures, mais il est pas. Il est difficile. Hein. Il est très difficile. Mon grand désarroi. Faut faire des potées. Il fait encore froid là. Mon conseil à la maison, parce que forcément je passe peu de temps à la maison, comme tout le monde, c'est de faire des marmites, des potées. Faut cuire une fois une viande ou pas, si on mange de la viande, mais une volaille par exemple, voilà, avec plein de légumes, et se servir de ça comme une base. On va faire cartonner le four, le remplir de betteraves, parce qu'il y aura encore des betteraves. Même si les asperges arrivent, il y aura encore plein de betteraves et trucs comme ça à manger. De betteraves, de céleri, de tous ces légumes racines. On fait tourner le four une fois de nuit pendant les heures creuses. On le fait tourner, on le lance, je sais pas, à 200 degrés. On met les betteraves, ça dépend de la taille, 200 degrés, mais ou 180.
Toute la nuit ?
Non, on lance 2 heures. Et après, avec l'inertie du four, les betteraves vont continuer. Tous les produits comme ça vont continuer à cuire.
Tu mets 2 heures au four et
sans les éplucher, juste en les lavant, en les brossant un peu.
Et ça va cuire comme ça. Ça continue à cuire après les 2 heures.
Voilà. Et le lendemain matin, on prend, on met ça au froid. Et quand on a besoin, on épluche un peu. On n'est même pas obligé de réchauffer. Une betterave qui a rôti comme ça au four, un trait d'une belle huile... On peut mettre ça comme on aura toute la mise en place. On peut agrémenter ça de ce qu'on veut, de ce qu'on aime manger. Mais on aura toute la mise en place qui aura été cuite en une fois, qui n'aura pas pris de temps. Et à la maison, c'est ça qu'il faut faire si on veut pas exploser le budget, si on veut respecter les saisons, si on veut se faire du bien.
Avoir des légumes.
Ouais.
Ouais. Trop bien.
Je maximise les préparations pour que ça me fasse le plus de repas possible. Quoi. Des marmites, des cocottes. Le four qui tourne de nuit, et après t'es tranquille pendant 4-5 jours.
Merci Florent.
Merci à toi.
Vous venez d'écouter Florent Ladène, épisode 16 de la saison 4. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous à Lille, au Bloompot et au Beerbeek, où il propose tous les jours, avec ses équipes, une offre de plats à emporter ou en delivery. Plus d'infos sur les sites de ses restaurants, vermont.fr, bloompot.fr et beerbeek.fr. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.